Une cage, deux combattants, un seul vainqueur. On est fiers partenaires de la NSPW. On a 4 billets. Admission générale pour aller remplir le stade, ce qui est une belle habitude estivale qu'on a à Québec depuis quelques années déjà. Vous achetez vos billets sur lepointdevente.com. Donc, j'ai 4 billets pour vous autres. 418-971-1021. J'ai mentionné le nom de 2 lutteurs pour parler de technique de réanimation. Nommez-moi le plus petit des deux. Pas pire, ça?
Ça se fait bien, je pense.
Ça se fait bien?
Même moi, je suis capable.
Hey, puis votre nom, votre numéro de téléphone?
Ah, dites-moi, c'est qui, Mona, puis c'est...
Non!
Non, c'est pas vrai. 418-971-1021, oubliez pas votre nom, puis oubliez pas votre numéro de téléphone. Bonne chance. Gravel. Hey, 16h03, c'est super le fun de vous retrouver. Vous êtes nombreux, vous êtes réactifs. Comme dans le temps, là, quand on est parti en vacances, là, à quelque part vers la fin du mois de juin. 418-971-1021 par texto. Des averses, des orages. Le maximum est atteint pour la journée, 23 degrés. Le ciel se vide, ça c'est la bonne nouvelle. Minimum de 14 ce soir et cette nuit. Et demain, séquence ensoleillée qui débute pour les 3 prochains jours. Demain, soleil 25. Mercredi, soleil 28. Et jeudi, soleil 28 degrés. Mon nom est Denis Gravel. On est là jusqu'à 18h. On est les premiers à revenir en formation complète. Suivez-nous sur l'application Boulevard. C'est gratuit. Ça griche plus d'un char. Ça vous suit au bureau. Vous avez également le blvd.fm. Audrey, sur les routes.
Peut-être vous dire que sur Robert Bourassa Sud, à la hauteur du boulevard Hochelaga, la voie de droite est bloquée. C'est un accident. Il y a quand même pas mal de problèmes de circulation actuellement. Là, si vous êtes sur la capitale Est, ça se passe surtout, je vous dirais, entre Henri IV et Laurentienne. D'ailleurs, Laurentienne, direction Sud, dans la bretelle pour aller chercher capitale Ouest. On sent le ralentissement. Robert Bourassa, direction Nord, c'est entre Wilfrid Hamel et la capitale. Si vous êtes sur Henri IV Sud, de Wilfrid Hamel au pont, super difficile de circuler, Duplessis Sud, Charest au pont. Et sur la rive sud, il y a des problèmes entre Monseigneur Bourget et la route du président Kennedy si vous êtes sur Guillaume Couture dans les deux directions dues aux travaux. Pour ce qui est de la 20 direction ouest, c'est entre la route du président Kennedy et Taniata, évidemment, des travaux depuis des semaines qui aident pas à toute la cause. Et il y a des problèmes direction est aussi, toujours sur la 20, à la hauteur de Taniata, évidemment. S'il y a autre chose, 88-971-1021 texto.
J'ai pris une vilaine habitude dans les dernières années pendant mes vacances estivales, c'est que 2-3 semaines avant de revenir au micro, puis je sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que je m'ennuie, c'est peut-être parce que tranquillement je veux rétablir les contacts avec la gang qui nous écoute dans le retour et ainsi de suite, parce que de façon générale, je ne suis pas un gars qui parle beaucoup, je ne suis pas un gars qui est très sociable.
Mais en fait, quand ton micro est ouvert, tu parles beaucoup, puis tu as échangé, puis tu aimes bien les textos. Fait que peut-être que tu étais effectivement en carence.
J'étais peut-être en manque parce que c'est une thérapie de venir vous parler à chaque jour pendant 4 heures, particulièrement en si bonne compagnie. Tellement content de retrouver Audrey et Véro, qui ont été des perles et des soies pendant la période estivale.
Tu t'es vraiment ennuyé. Hein?
Oui, absolument.
Aujourd'hui, hein?
Absolument.
Oui. Il est comme full compliment.
Fait que 2-3 semaines avant de revenir en onde, je fais tout le temps la gaffe de parler d'actualité sur mes réseaux sociaux.
Pourquoi d'ailleurs?
Ben, ça y manque.
Je dois avoir un petit craving. Puis des fois, tu fais un peu exprès pour que le feu pogne. Parce que tu te dis, ah, on va faire un ménage saisonnier. Moi, Facebook, je considère ça comme mon salon. Si j'aime pas ce que tu fais dans mon salon, ben je te sors de mon salon. Puis moi, ça me prend pas grand-chose. Je vois juste quelqu'un qui fait partie de mes amis, qui partage une joke raciste, puis je vais bloquer la personne. J'ai l'épiderme assez sensible là-dessus, puis en même temps, je me dis, c'est mon espace.
Oui. Tu
sais, c'est pas un espace qui est associé à Boulevard 102.1, c'est pas... Non, c'est à moi.
Mais
c'est ma cour.
Je pensais... Bon, pas que t'avais fait exprès.
Pas ce coup-là.
Mais je me suis dit...
Je te jure!
Je me suis dit, bon... Là, il a besoin de réaction. Là.
Ben!
Il veut de l'attention.
Ben oui, c'est ça.
J'ai été 2 jours sans mes gars. Je pensais pas passer les 2 jours temps plein sur un post Facebook d'actualité qui a explosé comme un feu d'artifice des grands feux. J'ai écrit la phrase suivante, OK? Le 27 juillet, question sans parti pris. Si votre premier geste, quand vous vous lancez en politique, c'est d'effacer des milliers de tweets où vous parlez de politique, y a-tu juste moi qui se demande pourquoi je vous ferais confiance? C'est tout. Le feu a pogné. On m'a accusé de faire des attaques personnelles. On m'a accusé d'avoir manigancé une vendetta professionnelle.
Mon doux.
On m'a accusé de faire du harcèlement, du bullying. Qu'est-ce qu'on a dit à part ça? Ah, évidemment, je suis un collaborateur de Bruno Marchand et j'ai du sexe à intervalles réguliers avec une chroniqueuse du Journal de Québec. C'est toutes des choses que j'ai lues suite à ce post. Qui était loin de l'incendie, là, on va se le dire. Là.
C'est parce que c'est un post que tu aurais pu faire de maintes reprises dans les dernières années, parce que c'est arrivé à, pas juste une fois, là, qu'il y ait des gens qui aspirent à des visées politiques puis qui fassent un petit ménage derrière.
Mettons que c'est la fois la plus maladroite et la plus malhabile.
Mais c'est ça que j'allais dire. Là, le contexte fait en sorte que, je te crois que c'était pas voulu, mais les gens se sont dit, bon...
C'est sûr que je parle de Doom Dumas. Doom Dumas, pour les gens qui le connaissent pas, c'est un gars qui travaille à Radio X. On a été des collègues de travail, mais c'est pas vrai que tous les collègues au Walmart se connaissent comme le fond de leur short, là. Je veux dire, le moment où Doom Dumas travaillait à Radio X, puis que je travaillais à Radio X... Les conversations qu'on avait...
Parlait de lutte.
C'était sur la lutte.
Je le sais.
C'est une passion qu'on a en commun. Même que la première fois que j'ai parlé à Doom Dumas, je savais même pas c'était qui. C'était à New York. On allait voir WrestleMania. Il était avec des amis à moi. Puis on a commencé à jaser. Puis je savais même pas c'était qui. C'est quelqu'un qui est venu me voir après. Il me dit, hey, c'est Doom Dumas qui travaille avec Jeff. Je pensais pas que vous étiez amis. J'ai dit, ben là, on tripe ça à la lutte. On parle de lutte.
Ça a cliqué à ce niveau-là.
C'est le fun. Tu sais, puis, à l'époque, ben Doom Dumas travaillait avec Jeff, puis il faisait de la radio sur un bateau pirate à quelque part qui n'était pas dans les studios de Radio X. Fait qu'on n'avait pas vraiment l'occasion de jaser. Mm-hmm. T'sais?
Mais c'était une publication qui visait la transparence en général.
Ouais, mais Doom Dumas, dans sa vie d'avant la politique, avait beaucoup de jobs dans un show de radio qui s'appelle Morey Live. Mais sa job principale, et celle pour laquelle il était reconnu le plus, c'était de faire une chronique plusieurs fois par semaine où il se moquait des politiciens et des autres médias, souvent en les accusant d'une affaire, puis de deux affaires, puis de trois affaires. Suivant ce beat-là, Doom Dumas, à tous les jours, commentait l'actualité politique sur son Twitter. Doom Dumas n'était pas vidangeur. Doom Dumas n'était pas actuaire. Doom Dumas travaille dans une talk radio qui parle de politique. C'est normal que ça devienne le cas le plus flagrant de « je prends des dizaines de milliers de tweets, pas où je parle d'acupuncture ou de lutte professionnelle avec Gravel. Je parle exclusivement, ou presque, de politique, de politiciens et de médias. Et je les critique. » Souvent sévèrement, ce qui est correct. Mais tu peux pas faire semblant que ça existe pas.
Faut que tu sois conséquent.
À partir du moment où tu te lances en politique. Soit que t'es ben nono parce que tu penses que t'as pas laissé de traces, puis que le fait que tu fais le ménage, ça va tuer le débat. Ou tu manques de conséquences un peu... Puis tu penses que les gens vont manquer de conséquences aussi. Puis je le sais pas, je le connais pas. Je sais que c'est un gars qui travaille fort en radio. Ça va probablement prendre 3 personnes pour le remplacer à la radio cet automne. Parce que je connais mon Morey. Il y en a qui sont pas prêts.
Tu travailles avec, t'es mieux de livrer.
c'est le moins qu'on puisse dire.
Oui.
Mais tu sais... Moi, ça m'apparaît comme un non-sens total de dire « Tu fais du média, tu fais du Twitter, puis tu parles de politique à tous les jours. »
Tu peux pas effacer ton passé.
Tu peux pas effacer ton passé. Il va te rattraper d'une façon ou d'une autre.
À moins que t'assumes pas ce que tu dis.
Mais si tu n'assumes pas ce que tu dis, puis que toute ta carrière, à tous les jours, tu critiquais les politiciens de ne pas être conséquent, mm-hmm. moi, je vois ça, je vois pas de controverse à dire c'est le cas le plus malhabile et le plus mal avisé de ménage de réseau social. Puis je vois pas de couleur politique là-dedans, je vois pas de couleur de job, je vois juste une évidence.
Le pire, c'est que ça aurait été un candidat mais... pour un autre parti.
Même discours.
T'aurais fait un post comme ça, c'est une autre gang qui aurait probablement réagi.
Mais je me suis rendu compte à quel point ça prenait plus grand-chose ouais. pour que le feu poigne. La quantité de commentaires complètement à côté de la coche que j'ai reçu, la violence, l'agressivité.
Tu parles à Doom?
J'ai pas parlé à Doom.
Non.
Mais non. On s'est croisés dans le stationnement de Boulevard le matin qui s'est lancé en politique.
C'est vrai, il était venu faire une entrevue ici.
Oui. Puis moi, je faisais le pit stop. On s'est croisés dans le parking. On s'est dit salut. J'y ai dit bonne chance pour la
suite.
Puis
on jasait de lutte.
On a probablement jasé de lutte. On n'a même pas eu le temps.
Je te dis, Audrey, c'était même pas drôle. Là. Le temps s'arrêtait pour 20 minutes pour que tu jases de lutte.
On a même pas eu le temps de jaser de lutte. Puis, tu sais, les conservateurs et les gens qui appuient ouvertement les conservateurs dans les médias, j'ai constaté à quel point il y a beaucoup de gens très fragiles là-dedans, très insécures et très agressifs. Mais en même temps, hey boys, ça vient avec la game. Vous êtes très critique de vos adversaires. Vous êtes très critique des autres médias. C'est sûr que la journée que vous allez sauter sa patinoire, il y en a qui vous attendent.
Oui.
Hey, tu peux pas être baveux, 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 puis penser que tu vas sauter sa glace puis que tu vas avoir un traitement VIP. Là.
T'imagines te lancer en politique demain?
Puis... Puis moi, je pourrais... Puis, tu sais, mettons...
que tu serais attendu.
Mettons que je suis chroniqueuse au Journal de Québec, là. Puis que j'ai lu le gars qui dit que je fais pas mes recherches, que je suis pas une journaliste, que je dois avoir des photos de quelqu'un puis c'est pour ça que je garde ma job. Je peux-tu te dire que la seconde où tu vas te lancer en politique...
T'attends.
Je t'attends en tabarnak.
Mais oui.
Mais voyons donc. Voyons donc. Ah, mais là, c'est de l'acharnement, puis... Non!
C'est le retour du balancier.
C'est le retour du balancier. C'est le karma.
Mais de toute manière...
Puis c'est normal.
Mais c'est ça. Puis peu importe la job que tu faisais, là, mettons qu'on sort de son cas à lui. Là,
ouais.
Mais j'ai le sentiment qu'à partir du moment où tu décides que toi, dans la vie, tu veux faire la politique, peu importe la raison, elle t'appartient, monte patte blanche.
Ben,
je faisais ça avant. Ouais. J'ai eu tel propos dans le cadre de mon travail qui exigeait que je critique et que je commente.
Hey!
Puis assure,
va ailleurs, c'est tout, là.
Ça fait une trentaine d'années que je fais de la radio. Des conneries, là. J'en ai dit en bâtisse. Puis je vais en dire encore.
Oui, oui.
Puis tu peux pas... Tu sais, mettons que je me lancerais en politique, là.
Je te lançais.
Mettons que je me lancerions en politique, là.
Les vacances, hein?
Ouais. Premièrement, je vais apprendre à parler, hein?
On te le souhaite.
Moi, dans ton équipe de com, OK?
On va te corriger ton français. Par contre, faut pas qu'elle te conduise.
Non. Ouais. Ne pas être chauffeur, moi, je suis en arrière, je te le dis. Là.
Si tu veux être dans mon équipe de com, tes enfants ne verront pas souvent. Hein? Non, mais sérieusement, puis moi, dans ma tête, que ce soit à gauche, à droite ou dans le milieu, quand tu es confronté à quelque chose que tu as dit, je trouve que la réponse la plus simple, c'est souvent la meilleure réponse. « Hey, Gravel, en 2014, t'as dit telle affaire. » Ouais, je l'ai échappé en tabarnache. J'étais pas conscient. J'étais ignorant de sujet.
Il manquait des éléments d'information.
Il manquait des éléments d'information. Ou j'ai juste été cave.
Ben oui.
Ça, c'est moi en 2012. J'étais jeune, j'étais cave, j'étais ignorant, puis...
J'ai pris un raccourci.
J'ai pris un raccourci qui était vraiment trop gros pour la patente. Un exemple parmi tant d'autres. Puis là, je dis 2012, la semaine passée. Ah, Gravel, la semaine passée, t'as dit telle affaire. Ouais. Ouais, je t'ai rendu champ gauche.
T'avais pas rapport.
Ouais, j'avais pas rapport. Je me stinais avec Audrey, puis j'ai pogné les nerfs, j'ai dit une maudite niaiserie. Ça arrive. On est-tu prêt à accepter ça? Parce que dans le débat sur le ménage maintenant que tout le monde est obligé de faire avant de sauter en politique, il y en a qui disent « ben t'as plus le choix de faire ça ». Parce que les gens focus sur l'anecdotique puis parlent pas des vrais enjeux. Bon, première chose, quand vous faites le ménage, on parle de ça aussi. Fait qu'on est pas mal au même point.
Au pire, faites le ménage comme un ado, là. Cachez-en un peu dans le garde-robe, un peu en dessous du lit.
Mais est-ce qu'on est prêt à vivre avec des gens parfaitement imparfaits qui, comme tout le monde, ont fait des conneries? On ne peut plus bâtir de René Lévesque. On ne peut plus bâtir de JFK.
Non, parce que
tout le monde laisse des traces de merde. Puis souvent, ben, on les publie nous-mêmes sur les réseaux sociaux.
C'est comme là, actuellement, c'est les partis politiques qui vont décider de la perfection ou de l'imperfection d'un candidat. Puis souvent, ils l'apprennent, puis l'annonce est déjà faite. Fait que là, tu vas apprendre, mais tel parti a décidé de retirer tel candidat ou telle candidate. Parce qu'il y a souvent un backlash qui est médiatique. Mmh. Et si on acceptait que ces gens-là se présentent et que ce soit l'électeur qui décide, au lieu que ce soit les instances.
Ça devrait, mais dans ma tête. Mais moi, c'est là que la politique, je la trouverais intéressante.
Si un chef de parti, je sais pas, je me disais, être chef de parti, la première chose que je demanderais à mes candidats, c'est vivez avec vous-même. Gérez vos fougères, gérez vos affaires. Oui, mais est-ce que je fais le ménage de mes... Non. 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 Ah, mais là, mon équipe de recherche rapporte là, qu'on a trouvé une photo de toi, ça brosse au cégep, t'es assis tout nu sur une bonne de toilette, avec une labatte bleue dans les mains. Ouais, mais tu le diras. Tu le diras. On a toutes des photos, ce qu'on a de la cave.
Oui, on a toutes été jeunes.
Puis, ce sera aux gens de juger. Mais des dizaines, parce que dans le cas de Doom Dumas, c'est ça, c'est des dizaines de milliers de tweets, dont 95% parlent exclusivement de politique.
Alors, moi, tu s'en vas en politique?
Ce que je trouve que ça lance comme message, c'est que tu as quelque chose à cacher ou que tu vas jouer la game exactement comme les autres.
Comme ceux que tu dénonçais.
Alors que la lessive des conservateurs, ils nous la vendent comme étant du plus blanc que blanc. Mais là, c'est pas ça. Tu fais pareil aux solidaires, tu fais pareil aux péquistes, tu fais pareil aux caquistes.
Ouais,
mais rendu au pouvoir, on va être différent. Man, t'as même pas une journée de campagne électorale de fête, puis tu fais déjà pareil aux autres. Fait que dans un cas comme dans l'autre, je trouvais que c'était pas le bon message. Mais j'ai trouvé ça plate de voir que c'est devenu...
La vague d'agressivité qui est venue avec.
En fait, c'est devenu une discussion de partisanerie politique. Oui. T'aimes pas Doom Dumas? T'aimes pas les conservateurs, t'étais d'accord avec ma prise de position, mais t'aimes Doom Dumas ou t'aimes les conservateurs, puis là, j'avais fait quelque chose de terrible, de soulever une question.
Pour avoir une discussion.
Pour avoir une discussion, puis c'est peut-être ce qui m'a fait le plus de peine, plus que les messages agressifs, puis les conneries, puis les menaces. Moi, je bloque à mesure, puis après ça, c'est du monde qui existe plus.
De se rendre compte qu'on se vole, on vole pas si haut que ça, finalement.
Ouais.
Mais tu sais, le débat est tellement intéressant.
Mais oui.
Comme société, qu'est-ce qu'on veut? Quelqu'un qui présente une belle façade, mais qui n'a rien qui tient en arrière, ou quelqu'un qui assume qu'il est en rénovation à tout bout de champ, tu sais?
Puis je vous
on
invite,
veut quoi comme ça? Et moi, je trouve ça le fun à jaser.
Vraiment.
Hein?
Sur le blvd.fm, là, Antonine, cet été, faisait une chronique communication par semaine, OK? Et il y a une semaine où c'est exactement de ça qu'on a jasé, la transparence en politique, puis veut pas avec son expérience aussi, je veux dire, communication, stratégie politique. Ces points étaient vraiment intéressants.
Écoute, j'ai appelé en onde cet été pendant que Max et Anto était là, puis j'ai discuté avec Anto qui n'a pas le même point de vue que moi là-dessus, tu sais, sur comment on gère quand on se lance en politique versus le passé, les tweets, puis ainsi de suite. Mais elle avait des bons points, puis je trouvais ça intéressant. Ce que je trouve plate, c'est quand la politique, puis ça semble être le cas de beaucoup de monde, c'est quand la politique devient une discussion religieuse où ma gang a raison. Nous autres, la fin justifie les moyens, mais pas les autres. Donc, qu'un solidaire fasse le ménage de ses réseaux sociaux, on dénonce ça quand on vote conservateur. Mais quand quelqu'un se lance pour les conservateurs puis qu'on vote conservateur, bien là, on a toutes les bonnes raisons du monde de dire, bien écoutez, c'est normal, vous savez. Puis là, on nous sort la cassette. Parce que ça, c'est l'autre affaire. Les conservateurs dénoncent les politiciens qui ont des cassettes. La cassette, c'est tweet effacé. Vous l'avez tout spiné, là. J'ai eu des messages en copier-coller qui venaient de noms différents, qui expliquaient les mêmes choses dans les mêmes mots avec les mêmes phrases. Si t'aimes pas les cassettes en politique, fais-en pas. Ouais, mais celle-là est bonne. C'est une cassette de ma gang. C'est ce qui m'a déçu le plus. Et fondamentalement, il y a des gens qui haïssent tellement l'autre gang qu'ils vont se permettre de faire tout ce qu'ils font, mais eux autres ont le droit. Tu sais, tu dénonces ce qu'Olivier Niquette fait à Radio-Canada. Oh, il fait des chroniques juste avec nos extraits, puis il sort ça de son contexte. Puis toi, après ça, ben, tu t'en vas faire une chronique où tu prends du monde de Radio-Canada, les pires, t'es sort de le contexte, puis tu fais fâcher ton monde. Tu fais la même chose de l'autre bord. C'est comme dénoncer Chris Nyland en envoyant John Cordix à la glace. Mmh. Tu dénonces un président sénile, puis tu votes pour Trump. Moi, c'est ça qui m'énerve, le manque de conséquences. Puis ma question, ma question visait Doom Dumas.
Mais la discussion était apolitique.
Mais ma question n'avait pas de couleur politique. Je n'ai pas d'agenda politique. Je n'ai pas une vendetta personnelle contre Doom Dumas. Le manque de conséquences m'énerve. Et dans la région de Québec, les conservateurs ont le contrôle des radios. Est-ce que ça vous dérange? J'espère un peu, au moins autant que Radio-Canada, il y a juste des péquistes. Si un vous dérange, moi, ce que je demande, c'est que l'autre vous dérange tout autant. Puis dans ce sandwich-là, ben des gens qui ne sont pas sûrs de rien, puis ça, je l'ai vécu, là. Moi, après 2 jours, mes enfants revenaient à la maison puis la vie reprenait son cours. J'avais plus le temps d'opérer la discussion sur les réseaux sociaux, là.
Après 48 heures à temps plein.
Ouais. Fait que n'importe qui a une vie, n'importe qui n'est pas obsédé, va essayer une fois de lancer une opinion sur un sujet politique, puis après ça, il le fera plus jamais. Puis c'est dommage. Parce que moi, j'ai l'impression que ça représente encore 80 % du monde qui vivent autour de nous autres. Il y a peut-être un 20 % là, d'enragés politiques, 10 % à gauche, 10 % à droite. Ils font la même affaire des deux bords, avec les mêmes moyens, le même bullying, les mêmes menaces, la même agressivité.
Mmh. Ah, mais les gens qui aimeraient ça avoir une discussion ouverte d'esprit n'ont plus envie de l'entamer, de
non,
peur de se faire
ramasser. Ils vont le faire autour d'une bière ou ils vont le faire dans un autre contexte.
J'aspire à ce que cette tribune-là, puis je ne veux pas embarquer Boulevard 102.1 au complet, mais je trouve que présentement, il y en a plusieurs qui essayent de le faire à leur façon. Ce ne sera jamais drette, ce ne sera jamais parfait. Moi, pendant 4 heures par jour, je vais dire un paquet de conneries. Des fois, les mots vont dépasser la pensée. Des fois, ça va être un petit peu plus champ gauche que d'autres. Mais il faut se redonner le droit de jaser. Puis je pense que les gens balancés, qui ne sont pas des enragés, doivent reprendre le contrôle de la conversation. Parce que dans les dernières années, on l'a laissé aux enragés. Mmh. Puis les enragés, ils ne font pas la différence. Vous l'avez vu à la dernière campagne électorale municipale. Oui. Nous autres, il faut recommencer à jaser, par exemple. Ça, je trouve ça important.
Ah, mais tu as raison. Mais je comprends, par exemple, ceux qui n'ont pas envie de le faire.
Oui.
C'est ceux qui n'ont pas cette petite
fibre-là. Le temps est trop précieux. On a des proches à s'occuper autour de nous autres. On a des gens qu'on apprécie à qui on doit prendre le temps de donner des nouvelles. C'est ça, exact.
Tu sais, j'ai écrit mon post, puis 2 jours plus tard, j'étais écœuré, puis ça ne me tentait plus. Puis finalement, je me disais, mais si j'en reparle pas, je laisse les enragés prendre le contrôle de la place. Mm. Fait que j'ai fait un autre post beaucoup plus long où j'ai expliqué un peu ce que j'avais vécu en dedans de 48 heures parce que j'avais soulevé une question. Là, tu sais, les menaces, les affaires, puis tout ça, puis quelques observations. Parce que si on laisse la politique aux enragés de politique, ben on laisse 20 % du monde décider à notre place. Puis moi, je pense que ces conversations-là sont importantes. Trop importantes pour laisser des enragés de gauche et de droite avoir le monopole de la conversation. Ça semble être un combat perdu d'avance sur les réseaux sociaux parce que n'importe qui a une vie n'a pas le temps d'entretenir ces conversations-là puis de répondre à toutes les accusations puis les menaces puis les conneries.
Surtout ces réseaux sociaux.
Oui. Surtout ces réseaux sociaux. À radio, ben c'est peut-être plus simple. C'est peut-être plus facile. Je ne sais pas si vous vous retrouvez là-dedans. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous tanne autant que moi, ça me tanne. L'hypocrisie, le manque de conséquences.
Moi, je l'évite soigneusement. J'en ai fait un art.
C'est-à-dire?
Quand je vois ce genre de commentaires-là ou quoi que ce soit. Tu sais, il fut un temps où c'était de l'écrapou pour moi, là, fait que je prenais le temps de lire. Puis je me suis dit, juste de donner du temps, je nourris la bête, mm-hmm. même si je n'interviens pas.
Ouais.
Maintenant, puis parce qu'il y a des conversations que je trouve intéressantes. Il y a des pauses parfois que je trouve intéressantes. Puis je le sais qu'il va y avoir une couple de débiles au travers, mais j'ai encore le goût de voir quelqu'un qui va réfléchir plus loin que le bout de son nez, qui n'a pas la même opinion que moi. Ça va être quoi son argumentaire? Je veux le voir, je veux le comprendre, je veux avancer là-dedans. Puis on le dit souvent, là, si on jase pas, on n'avancera jamais. Fait qu'une fois de temps en temps, je fais du cherry picking.
Ouais.
Je choisis mes conversations et mes combats. De moins en moins sur les médias sociaux, je choisis mes intervenants, même s'ils ne sont pas de mon bord non plus. Puis tu sais, on est chanceux, nous autres, on a notre gang ici pour jaser. On a les auditeurs, les auditrices qui sont là puis qui prennent le temps de nous donner leur son de cloche à eux autres. Puis c'est la majorité du temps, c'est bien exprimé, puis je trouve ça le fun. Là.
L'idée, c'est pas de créer un safe space Zéro. Rempli de papier bulle où on se dit tout qu'on est beau, qu'on est bon, puis qu'on est parfait.
Non, c'est d'avoir un vrai auditorium, là,
ouais, avec respect, puis être capable d'argumenter avec une pensée construite, puis pas juste des insultes.
Tu sais, je vais faire un parallèle avec quelque chose. Je sais pas si on va avoir le temps d'en reparler aujourd'hui, mais l'agressivité au volant. L'agressivité au volant, il y en a de plus en plus. Au point où des gens se disent « Moi, sur les autoroutes, j'y vais plus. » C'est dommage qu'on laisse les autoroutes aux agressifs du volant puis que des gens prudents se disent « Ben moi, je reste chez nous. Mm. » Ça devrait être l'inverse. Puis je pense que la politique, ben c'est pour ça que c'est important de reprendre le contrôle du narratif puis de se parler entre gens balancés puis gens équilibrés, là. De reprendre le contrôle de ce qui se passe autour de nous autres, parce que sans ça, c'est rien que des enragés qui se crient des noms, puis qui sont inconséquents, insécures, mais surtout très agressifs, puis qui font rien avancer. T'sais.
Mais c'est de la pensée magique.
Tu penses?
Ah, je le pense Arrête. Profondément.
Mais voyons donc.
Ah, je te dis, pour vrai.
As-tu perdu tes lunettes roses pendant l'été?
C'est ça que je suis en train de me dire.
Hey, la grossesse, ça te va pas bien.
Non, ça me va mal à date. Je te le donne.
T'es vraiment en overdose de lucidité. Là, j'aime pas ça. Hey, où non, ma Audrey que j'aime?
Ben écoute, non, mais c'est juste...
Elle, là, il l'aime pas, OK?
Ouais, c'est ça. Non, mais c'est qu'à force de me promener sur les réseaux sociaux comme n'importe qui, c'est ça, t'en viens de décourager puis avoir envie de te retirer de ces discussions-là. Puis j'ai l'impression que c'est un réflexe sain, malheureusement, pour se protéger. Puis j'ai le sentiment que si tu veux protéger ton petit bonheur le moindrement, tu sais, on a une auditrice qui nous écrit qu'elle a commencé à répondre, tu sais, à ces ouais. gens-là, ces réseaux. Oui, ouais, mais donne-toi 3 semaines, là, mon ami. Là. Tu vires fou, là.
C'est puis ça.
À essayer... Puis prends le temps de respirer, parce que des fois, c'est pour tes proches autour, là.
Hey, ça m'arrive
de voir
des
quelqu'un
fois...
qui réplique tout le temps, t'es comme, hey, oui, mais passe du temps avec moi.
Oui, puis ça m'arrive des fois sur la page de Boulevard d'aller répondre à une couple d'innocents, là. Parce que là, on dirait que tout d'un coup, j'ai le goût
puis toi,
de passer.
Toi, t'as le passif agressif, là.
Non, ouais, je reste poli, mais le message
c'est
est clair.
Beau, là.
Sauf que.
À 10 ans, tu vas les envoyer chier.
Mais ça pourrit ma journée.
Moi, je la vois à la courbe. Non, là.
Elle va tout retirer puis elle va se présenter en politique.
Ouais, mais ça pourrit ma journée, tu sais, de répondre à ces gens-là. Fait que j'ai le sentiment que c'est tellement un beau discours puis c'est tellement vrai ce que tu apportes. Puis j'écoute, je te seconde à 100% dans chacune de tes paroles. Mais j'ai le sentiment que par principe de paix intérieure, ça changera pas. Ouais.
J'aimerais ça que quelqu'un l'essaye à un moment donné, par exemple, parce qu'on est dans des milieux de plus en plus interchangeables. Mais tu sais, quelqu'un qui a fait de la radio parler ou, je sais pas, moi, qui a écrit des commentaires dans le journal ou whatever, se lance en politique puis tente l'expérience de dire « Moi, je laisse tout ça là. Là. » Tu sais, mes chroniques controversées, j'ai laisse là. Mes tweets, j'ai laisse là.
De toute façon, c'est déjà su
puis connu. Puis là, je m'en vais faire des entrevues. Puis à un moment donné, ben, quelqu'un dit « Écoute, on a sorti tes 10 pires tweets des 30 dernières années puis on aimerait ça que tu réagisses à ces tweets-là. » Ben pas de problème. Puis là, je parle pas de gauche ou de droite ou d'affaires de main. Non, juste quelqu'un qui se présente en politique. Puis là, OK, t'as dit ça, toi. T'as dit... Hey, à un moment donné, là, il y a des cyclistes qui font quasiment exprès pour qu'on le passe dessus en char. Ouais, j'ai échappé, hein? Ouais. Ouais. C'était pas ma meilleure. C'était probablement un point que j'essayais de faire, puis j'ai scrappé mon propre point en disant une grosse connerie. À mon souvenir, c'est à peu près ça. OK, j'ai un autre tweet ici. Là, vous vous êtes servi d'Hitler et les nazis pour faire un argument. Ça, habituellement, c'est le bout où une conversation commence à se biodégrader. Là. Ouais, mais les nazis, si t'amènes les nazis à quelque part, c'est que t'en as plus d'argument.
Ça, c'est perdu d'avance.
Ouais, c'est ça. Fait que là, tu le dis. Écoute, j'étais en train de m'ostiner avec quelqu'un. J'étais en train de perdre la raison. Puis j'ai utilisé un gros argument qui n'avait pas rapport. Puis j'aurais juste dû arrêter la conversation ou dire hey, je pense que j'ai plus d'arguments, puis c'est pas grave. Je pense encore ce que je pensais, puis tu penses encore ce que tu pensais, mais on va laisser Hitler pourrir tranquille à quelque part.
Moi, je ferais un point de presse là-dessus. Amenez vos questions sur ce que j'ai sorti dans mon passé, on va tout régler ça là, puis après ça, je peux t'avancer.
Ce serait peut-être, écoute, l'auto-sabotage le plus maladroit de l'histoire de la politique. Quelqu'un qui essaierait de faire ça, là.
Ah, mais moi, je serais, écoute, j'admirerais ça, là.
Mais ça marcherait peut-être pas.
Ben, peut-être pas, mais au moins, tu peux pas reprocher à cette personne-là de pas avoir été transparent puis conséquent.
Un animateur radio de Québec se présentant pour l'extrême-centre, Denis Gravel, qui a fait preuve de transparence pendant sa campagne électorale, récolte finalement 0,3% des suffrages.
Hey, c'est correct, mais tu l'as fait à ta manière et de façon authentique.
Peut-être.
C'est-tu quoi, à la limite, ça en dira long sur nous autres? Peut-être qu'on manque de conséquences aussi.
Ça se peut. Il est 16h33, vous êtes à Boulevard 102.1, c'est Gravel dans le retour. Gravel! On est loin du trafic printanier et automnal à Québec. Par contre, ça veut pas dire que c'est jojo sur les routes, 16h40, Audrey.
Beaucoup d'accidents aujourd'hui. Les autres, c'est pas mal ramassé, là, mais Laurentienne-Nord, accès depuis Louis XIV, c'est partiellement entravé. Accident qui vient tout juste de se produire, donc si vous êtes dans le coin. Peut-être vous rappeler que Capitale, direction Est, hauteur Robert Bourassa, toujours au ralenti. Robert Bourassa, direction Nord, ça se passe entre Wilfrid Amel et la Capitale. Si vous êtes sur Henri IV Nord, de la Capitale à peu près... Boulevard de l'Auvergne. C'est
on dirait
tout ralenti.
Musique d'attente. Cette attente est bien involontaire de notre part.
C'est de ça que je m'étais ennuyé le plus.
Veuillez conserver la ligne pour le reste de la circulation
plus,
d'Audrey Pinchot.
Je trouvais que j'étais bonne en date aujourd'hui, là, Colin. Si vous êtes sur Henri IV Sud en ce moment, de Wilfrid Amel jusqu'à l'entrée des ponts, c'est au ralenti Duplessis Sud, Charret au pont. Et il y a un problème sur Charret direction ouest, dans le coin du IKEA. Je vous dirais... entre, mettons, Duplessis puis Jean Gauvin, précisément, c'est quand même assez tough. Je ne sais pas s'il se passe quelque chose, particulièrement 88-971-102, il n'y a rien sur le 51. Pour ce qui est de la 20 direction ouest, ça va se passer entre la route du président Kennedy et Taniata. Direction est, c'est entre Dussault et Taniata pour l'instant. Autre chose, 971-102 par texto.
Le film L'Odyssée est disponible depuis déjà quelques semaines dans les salles de cinéma, entre autres les cinémas IMAX.
Oui, parce que Christopher Nolan, qui depuis plusieurs années nous avait habitués à présenter de longues séquences de ses films tournés avec les caméras IMAX, cette fois-ci, c'est payé la traite pour raconter l'Odyssée d'Homer, puis il est allé avec l'écran IMAX d'un bout à l'autre. Je peux encore aller le voir, c'est 3h15?
Oui, 3h et quelques minutes, 3h15, t'es allé?
Précisément.
Combien de briques toilettes, Audrey?
J'en ai pas pris un, j'étais quand même fière de moi, mais oui, je suis allée parce que j'ai pour amoureux un cinéphile, fait que j'ai pas le choix, en fait. Super bon film, pour vrai, mais moi, j'avoue que le 3h15, je comprends plus ça, là, aujourd'hui. Là.
Ah, puis toi, en plus, tu regardes tes affaires sur ton téléphone, en petite section.
Ben, je fais partie de cette génération-là où on coupe les films, on aime les séries à épisodes courts, fait que pour vrai, ça
a été... Il y
a des
films en accéléré qui sont présentés.
Ça a été un travail mental d'être assis dans la salle de cinéma pendant 3h15 sans décrocher en essayant de rester vraiment concentré sur l'histoire. Là.
Mais tu sais que quand t'écoutes, mettons, 3 épisodes de ta série de vampires, un en arrière de l'autre, ben c'est ça que tu fais 3 heures sur le
divan.
Oui, mais
elle se brosse les dents en même
mais
temps.
Mais c'est ça, tu sais, je fais du ménage.
ouais,
sa blague, c'était bon.
Je suis allé voir aussi, puis ça a été un peu mon constat de dire c'est bon, mais c'est long.
Ah, c'était épouvantable.
Mais j'arrive à la fin, puis je dis, ouais, mais t'aurais coupé quoi de ce film-là? Puis j'ai l'impression que toutes les scènes
ben,
sont
fin,
importantes.
Là.
Ah ouais,
la fin où tout le monde essaye la foutue arc, là, honnêtement.
Alors, c'était bon, ça.
C'était super bon, mais peut-être qu'il y avait trop d'essais avant qu'on arrive à conclusion. Là.
Les acteurs sont écœurants, mais il y a tellement d'affaires à raconter de ce que je comprends là, dans l'histoire de l'Odyssée. Là. C'est qu'à un moment donné, t'as l'impression que c'est 3-4 films.
Que ça aurait pris ou
dans
une série
un
à la Game of Thrones, si on veut. Là.
Peut-être.
Mais j'aurais pris partie 1, partie 2.
Peut-être aussi.
Tu sais, personnellement, là, moi qui ai de la misère à garder l'attention, mais je veux
dire... Ça se fait au cinéma, tu sais, on est en train de le faire avec Dune. En fait, on a sorti Dune en 2 parties, puis il y en a une autre partie qui va sortir aussi.
Parce que ce que je disais à mon chum, c'est je suis vraiment contente de l'avoir vu, mais moi, ça sort demain en streaming, tu me pongeras pas à écouter ça d'une shot chez nous. Là.
C'est que, puis tu sais, ça prend de tout pour faire un monde. Il y a de la musique pour tous les goûts. Les amateurs de bière vont vous dire qu'il y a une bière pour tout le monde aussi. Si vous aimez pas la bière, c'est que vous avez pas trouvé votre saveur. Le cinéma, c'est un peu pareil. Puis là, on parle de l'Odyssée, alors que t'as un film qui est conçu comme un jeu vidéo avec le principe de base qu'à toutes les 15 secondes, il faut qu'il se passe quelque chose, une joke, une référence, une cascade. Tu sais, les films de super-héros sont tous montés de la même façon. Puis Spider-Man a torché le box-office en fin de semaine. Les gars sont rendus à cet âge-là. On s'est tous tapé les Spider-Man en rafale.
Ils sont bons.
C'est l'enfer ces films-là sont bons.
C'est la meilleure série de super-héros. Puisque l'univers Marvel nous a offert pendant une décennie des poussières de très bons films avec différents personnages. Puis on s'est attaché à peu près tout le monde à travers tout ça. Mais d'avoir réussi à réinventer pour une troisième fois au cinéma en 25 ans le personnage de Spider-Man, d'aller chercher Tom Holland, un jeune homme excessivement talentueux, pas juste comme acteur, mais c'est parce que c'est lui qui fait ses cascades puis tout le kit. J'ai réécouté les derniers Spider-Man.
Ils sont très bons.
Je vis des émotions.
Lui puis sa blonde, c'est-tu rendu dans le fond, c'est un contrat qu'il faut tout le temps qu'il soit dans les mêmes films? Puis dans
c'est un addon. Je pense que quand ils ont été castés pour l'Odyssée, ils ne savaient même pas l'un et l'autre.
Elle avait le même costume que dans Dune. Puis, c'était la même affaire.
Ouais. Ben, sortir avec Zendaya, je m'organiserais pour être pas trop loin jamais. Là.
Ben, je comprends.
On vraiment mignon.
Il vient en paire. J'ai une question niaiseuse.
Sur Spider-Man?
Sans ressortir de Spider-Man, mais sur les formats de parce qu'on a parlé de l'Odyssée puis d'IMAX.
Oui.
C'est peut-être vraiment cave comme question, là, mais c'est quoi la différence entre filmer en IMAX? Tu sais, tu disais, mettons, des portions de films.
L'écran de cinéma, en général, est fait sur le large.
Oui.
Il est plus long que haut, si on veut. L'écran IMAX est beaucoup plus carré. Fait que c'est pas une image qu'on a coupée, c'est une image qui est plus grande. Fait que quand tu le présentes dans un cinéma standard, tu charcutes le haut et le bas. Mm-hmm. Puis dans les films précédents de Christopher Nolan, où on présentait des séquences en IMAX, t'avais l'image qui était sur le long, puis à un certain moment donné, c'est comme si l'écran s'agrandissait, c'est une question de perception. Puis là, t'avais beaucoup plus de détails, c'est pas le même cadrage, c'est pas la même qualité d'image non plus.
Il y a des gens qui résumaient le film L'Odyssée à « Je me sauve du Nil en bateau ». Parce que le nombre de fois où le personnage principal se sauve du Nil, où ils ont ramassé une bad luck, là,
c'est une quête principale. Là,
c'est comme le film de zombies où tout ce que Brad Pitt fait, c'est s'écraser en avion.
Oui,
là.
World War Z.
Ouais, je pense que c'est 4 fois dans le film, là, ou à peu près. Puis 4 fois tu t'écrases en avion, 4 fois tu survis, ce qui est quand même particulier. Hey, juste revenir sur les routes, les orages ont repris de façon quand même assez agressive.
On voit plus leur ancienne.
Non, effectivement. Fait que là, c'est le bordel à Québec présentement. Tenez-vous le pour dire si vous prenez la route. 88-971-1021.
Tu parlais de Spider-Man qui torchait le box-office avec Brand New Day. J'étais censée aller le voir ce soir, puis je me suis dit, après la première journée au travail, je pourrais prendre ça relax. J'ai très hâte de le voir, par exemple. Les critiques sont quand même bonnes. Je vais aller voir l'Odyssey aussi. Spider-Man, Brand New Day est devenu en Amérique du Nord le film avec le plus gros premier week-end de l'histoire. Avec les chiffres d'hier soir, on disait hop, il va finir à peu près deuxième, mais finalement, on confirme aujourd'hui qu'en fin de semaine, c'est pratiquement 360 millions de dollars que Spider-Man Brand New Day a fait. Il était en compétition, en fait, avec un film de l'univers de Marvel. C'était un des films de Avengers qui se retrouvait en tête de cette liste-là. Fait que c'est quand même beaucoup de sous. L'Odyssée, qui fait très bien encore, a fini deuxième avec 51 millions en fin de semaine. On frôle le 400 millions de dollars en recettes. Fait que pour un film d'une telle longueur, d'aller chercher autant d'argent, ceux qui disent qu'il n'y a plus d'intérêt à aller au cinéma, les gens regardent tout en streaming, je pense que pour certains événements, c'est encore des incontournables.
Il y a des films que tu veux aller voir parce que tu ne veux pas te faire vendre les punchs, puis la seule façon, c'est d'y aller la première fin de semaine. Je pense que Spider-Man, ça, c'est un bon exemple.
C'est carrément ça.
Puis dans le cas de l'Odyssée, ben, tu sais que c'est un réalisateur qui travaille dans le plus grand que nature, puis tu sais que le cinéma va amener un petit quelque chose de plus. Il faut aller sur les routes, Audrey.
Oui, ben là, il y a beaucoup de textos qui viennent de rentrer simultanément. Comment commencer par vous dire que sur Laurentienne Nord, un peu avant la sortie Jean Talon, on nous dit qu'il y a 4 grands champions qui ont fait un accrochage. Et on nous dit en ce moment aussi qu'il y a énormément d'aquaplanage possible sur Laurentienne. On nous rappelle les lumières, entre autres.
Il y a François qui dit justement sur Laurentienne, c'est tellement mauvais, je suis descendu de Stoneham à 60 km/h sur les 4 flashs. C'est ce qu'on voit là, dans nos fenêtres présentement, secteur Le Bourgneuf.
Et puis les 4 flashs, en passant, c'est une bonne solution. Là. Si vous avez peur de ne pas être vu ou vous ralentissez ou peu importe.
Gros fan du 4 flashs, moi.
Moi aussi, pour vrai. Averti. C'est comme, je veux dire, dépasse-moi si tu veux, mais moi, je n'irai pas plus vite. Là.
Ouais. Moi, 4 flashs, j'ai tout le temps l'impression que le char est arrêté. Ça me stresse.
Bien, c'est mieux que tu aies l'impression qu'il est arrêté, que tu aies l'impression qu'il va à la même vitesse que toi. Souvent. Souvent, en tout cas. On a parlé des succès du box-office. Il y a un autre film qui a fait jaser pas mal cet été, qui a été un gros succès. Je suis allé le voir. C'est Obsession.
Oh mon Dieu, t'es allé le voir finalement?
Oui. Ouais.
Ce film-là est encore dans le top 10 au box-office.
C'est vrai?
Il est à 262 millions en Amérique du Nord. Cet été, c'est devenu le film le plus rentable de l'histoire du cinéma. Tu sais, à l'époque, t'avais le projet Blair qui n'avait pas coûté très, très cher. T'avais les activités paranormales aussi. Quelques dizaines de millions de dollars. Dizaines de milliers de dollars avaient fait des millions. Puis dans le cas de Obsession, petit budget, peu d'acteurs connus, un gigantesque box-office, puis ça fait des mois qu'il est au cinéma. Écoute, je vous en ai parlé, c'est quoi? C'était au mois de mai?
C'est très bon, mais on a tellement été gâtés dans ces films de ce genre-là, films d'horreur, films de suspense, puis ainsi de suite. Il y avait tellement un overhype, un overbuzz. Je m'attendais à quelque chose d'exceptionnel.
Ah, tu vois, moi, c'est parce que je m'attendais à un film entrée de gamme quand je suis allée le voir, puis que ça a surpassé mes attentes. C'est pour ça qu'il y a eu un buzz.
Je pense que j'ai mieux aimé, puis c'est un peu sur le même thème, là, mais je pense que j'ai mieux aimé Attraction. C'est pas Attraction, Connexion. Je French ma blonde, puis je reste dedans, là.
Oh mon Dieu!
Comment ça s'appelle, ça?
Voyons comment ça s'appelle.
C'est pas inséparable.
J'aime ma blonde pour le
séparable. Je pense que c'est inséparable.
On est rendu collé.
Attends, inséparable.
Ah, c'est bon ce film-là.
Si vous n'avez pas vu le film, vous ne comprenez rien, mais si vous l'avez vu, j'espère vous riez un
c'est
peu.
C'est Together en anglais que ça s'appelle Together. Sur Prime Video.
Bon, OK.
Puis,
je pense que j'ai mieux aimé Together.
C'est
parce
un couple qui devient dissociable l'un de l'autre.
Ouais. Parce que je m'attendais à rien, j'ai plus aimé Together, alors que Obsession, on avait tellement entendu parler.
Mais il est là le problème.
Ouais, c'est ça.
Parce que moi, j'avais eu exactement le même trouble. Tu sais, Véro nous en parlait beaucoup. L'affaire, c'est que parce que je suis peureuse, je regardais ce que je voyais passer sur les réseaux sociaux. Mm-hmm.
Fait que toutes les premières phases de la fille, elle les avait déjà toutes vues.
Ah, c'était pas impressionnant par tout. Je veux dire, le concept est super, mais effectivement, faut pas que tu te sois laissé influencer par ce que tu vois.
Ce film-là a quand même réussi à plaire à des gens qui ne sont pas fans des films d'horreur ou qui s'y connaissent moins. Puis ils ont été capables d'aller chercher aussi ceux qui aiment vraiment plus ça parce qu'on a été surpris par justement la qualité, l'histoire du film, le côté...
Puis l'actrice.
L'actrice est absolument géniale.
Tant qu'à jaser de films et de cinéma, j'ai vu Backroom, c'est normal de rien comprendre?
Oui, ça c'est un c'est autre boss parce qu'on vous parlait du film Obsession. C'est un jeune réalisateur, Cary Barker, qui l'avait fait. C'est un gars qui avait fait sa renommée, entre autres, sur YouTube. Puis dans le cas de Backrooms, c'est la même affaire. C'est un très jeune réalisateur qui, lui, avait fait d'abord sa série sur YouTube. L'as-tu regardé?
La dernière demi-heure avec les marionnettes géantes, là, je t'ai rendu perdu en Saint-Cyphry. Hein?
Ouais, c'est l'équivalent de faire de la montagne russe dans le noir.
Mais c'est quoi cette affaire-là? C'était au cinéma ou c'était sur les plateformes?
C'était au cinéma, puis Backrooms est toujours au cinéma au moment où on se parle. C'est un homme dont la vie va pas vraiment bien. Il travaille dans... En fait, il est propriétaire d'un magasin de meubles. On est dans les années 90.
Un magasin pirate de meubles.
Oui, oui. Okay. Pirate sultan. c'est quelque chose.
Pirate avant que le mot perde toute sa saveur.
Et dans la portion, mettons, entrepôt du magasin, il finit par se rendre compte que l'autre bord d'un mur, il y a des pièces à l'infini. Puis tu vois jamais le bout de tout ça et ça devient absolument tordu.
J'essaie juste de m'imaginer Audrey qui s'assoit pour écouter
non,
ça.
Non, les arrière-salles.
Hey, sérieusement, je te le dis tout de suite, t'aimeras pas ça.
J'irai pas.
Oui, effectivement, tu vas finir le film, tu vas avoir un tas de théories aussi tordues que le film.
Mais c'est quoi l'histoire?
Je me suis pas rendu aux théories, moi. Je me suis juste compris, je comprends rien, puis c'est pas grave.
Ben, l'histoire, c'est que le gars disparaît. Puis la thérapeute qu'il avait commencé à avoir pour se sortir de sa vie finit par se rendre dans les salles arrière, elle aussi.
Là, il y a des marionnettes géantes.
Et là que ça commence à déraper.
Un frigidaire et une cuisine.
Puis des gens plus de tête, puis des gens plus de peau. C'est ultra stressant. C'est vraiment weird.
Stressant?
Ah, moi, j'ai trouvé ça stressant. Là, quand tu entends juste des sons, tu as des corridors puis tu vois rien. Puis Kane Parsons, qui est le gars à l'origine de tout ça, lui avait commencé en faisant une série sur YouTube qui est disponible. Et le film n'est pas un condensé de ce qu'il y a sur YouTube. C'est comme une continuité. Fait que ceux qui l'ont regardé, semble-t-il, ont des réponses à certaines questions qu'on peut avoir.
C'est parce que je me suis même pas rendu à avoir des questions. Je comprenais trop rien pour avoir des questions à poser. T'as-tu écouté Backrooms? Oui. T'sais, mettons, je rencontre le réalisateur. Puis là, j'ai l'opportunité. Il me demande, écoute, moi, je l'ai écrit, le film. T'as sûrement des questions à me poser. Non. Tout est beau. J'ai rien compris, puis c'est bien correct.
Il y a des gens sur le texto qui sont en même place. Là, qu'elles ont plus, on peut comprendre.
Tu sais, je suis à l'aise avec le fait d'avoir des théories ou d'avoir rien compris. À l'effet que ces espèces de salles-là recréent des portions de toi ou peu importe. En tout cas, moi, j'ai adoré ça.
Masters of the Universe est arrivé très rapidement sur les services de streaming.
Oui, disons qu'on a essayé de faire un succès au box-office, mais comme ça a duré même pas 2 ans en dessin animé, ben c'était un peu difficile d'aller chercher un public plus large. Fait que depuis à peu près 2 semaines, il est sur Prime Video. J'ai eu beaucoup de fun
à
regarder ce film-là. On aurait pu pousser la note un petit peu plus, mais ceux qui ont vu l'adaptation de Donjon Dragon, avec entre autres, c'est Hugh Grant qui joue là-dedans, puis une couple d'autres, on est dans le même mode. Le mode d'avoir du fun, de respecter l'univers, mais de pas se prendre au sérieux aussi. Fait que moi, pour moi, les maîtres de l'univers, ça a été un gros oui. En plus, il y avait le gros chevalier.
Les maîtres de l'univers mettant en vedette, entre autres, Jared Leto dans un rôle où il joue une version moins méchante de lui-même dans la vraie vie. Donc, il joue le méchant Skeletor, alors que Jared Leto, dans la vraie vie, semble quelqu'un de plus en plus malaisant.
Jared Leto, chanteur de 30 Seconds to Mars, il y avait eu plusieurs rumeurs dans les dernières années. Certaines accusations n'avaient pas poussé beaucoup plus loin d'inconduite sexuelle, entre autres chez des mineurs. D'ailleurs, si vous apprenez là qu'il joue Skeletor, c'est normal. On a choisi de carrément faire disparaître son nom de la promotion du film. Il n'a pas été là parce que ça commençait à circuler.
Il est très bon, d'ailleurs, dans le film. Là, si on fait juste regarder, mettons, sa performance dans le film, il est très bon.
Mais c'est la BBC qui a sorti la semaine passée une enquête dans laquelle plusieurs femmes parlent
quatre filles
de ce qu'il aurait fait, puis il y aurait des mineurs dans cette histoire-là, alors que Jared Leto a passé le 50 ans facile. Fait que disons que ce sera difficile pour lui de relancer sa carrière d'acteur. Il a eu beaucoup, beaucoup de chance dans sa vie.
Dans tes rêves de vie future, marié Jared Leto, ça a pris le bord? Ça a pris le bord, OK.
Bien, ça fait quelques années que ça a pris le bord. Moi, dès les premières allégations, je suis mal faite, là. Dès qu'il y a un doute, là, c'est comme si, oh, moi, je vais me reculer du petit feu.
Là pour rien.
Ouais, non, exactement, exactement.
16h55 à Boulevard. Les orages ont repris dans les dernières minutes. Ça a créé des problèmes supplémentaires au niveau des routes 418. 971-1021, on revient. Gravel.